Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Dans la période très troublée que nous connaissons en Europe, le Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement, est très présent sur la scène médiatique européenne. Et pourtant, sa présidence est peu connue, Daniel.
Institution pleine et entière depuis le traité de Lisbonne, le Conseil européen, composé des chefs d'État et de gouvernement, tous élus démocratiquement au suffrage universel dans leurs pays respectifs, bénéficie à ce titre d'une forte légitimité. Il est doté d'une présidence permanente. Le président est désigné par les chefs d'État et de gouvernement pour 2 ans et demi, renouvelables une fois. Son rôle est important. Il préside et anime les travaux du Collège. Il assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec, présente aux réunions, mais sans droit de vote ni de veto, actuellement la présidente de la Commission elle-même, ainsi que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen. À la suite de chacune des réunions de ce Conseil, il présente un rapport au Parlement européen. Le rôle présidentiel essentiel pour favoriser la coopération et la coordination des États reste avant tout d'animation. Ainsi, le président ne possède ni le droit de vote, ni le droit de veto.
Ce rôle important a-t-il mis en lumière des présidents forts ?
Alors, depuis 2009, 4 présidents se sont succédés. 3 ont achevé un mandat de 5 ans. Le 4e l'a débuté le 1er décembre 2024. La première présidence permanente du Conseil européen a été assurée de 2009 à 2014 par le Belge Herman Van Rompuy. Né en 1947, il est fils d'un père professeur d'économie. Après des études de philosophie et un doctorat d'économie, il est conseiller ministériel, puis professeur d'université. Membre du Parti chrétien-démocrate flamand, ministre du budget de 1993 à 1999, puis député dans l'opposition jusqu'en 2008, il devient Premier ministre. Il le reste moins d'un an, car préféré entre autres à Tony Blair, il est choisi à l'unanimité pour la présidence du Conseil européen fin 2009. On jouait en sa faveur sa réputation d'habile négociateur et son sens du compromis. Au sein du Conseil européen, il déploie sa méthode. Préparation intensive des sommets, utilisation pleine de ses prérogatives, même limitées, fixation de l'ordre du jour, convocation de sommets extraordinaires, mais aussi visites innombrables dans les capitales européennes et enfin contournement des irréductibles par une solution inventive qui permet à chacun de sauver la face. Tout cela accompli avec un style personnel fait de grande discrétion et de capacité à s'effacer pour laisser les bénéfices du succès à d'autres égaux. Durant la crise économique et financière de 2010, il a été un facilitateur efficace, sans pour cela prétendre à un quelconque leadership européen.
Le successeur d'Herman Van Rompuy a-t-il été aussi discret ?
Alors, le successeur, Donald Tusk, présente un profil très différent. Né en 1957 à Gdansk, dans la Pologne communiste, d'origine modeste, à l'université de Gdansk où il étudie l'histoire, il verse très tôt dans le militantisme syndical. En 1980, il fonde l'Association indépendante des étudiants qui rejoint le mouvement Solidarité. En 1981, l'instauration de la loi martiale le contraint à la clandestinité et le conduit quelque temps en prison. Par la suite, il enchaîne les petits boulots et acquiert de solides convictions politiques libérales. En 1990, il contribue à la fondation du Congrès libéral-démocrate et entame une carrière de parlementaire un an plus tard. En 2001, Tusk participe à la création d'un nouveau parti, la Plateforme civique, qui le présente sans succès à l'élection présidentielle en mai 2005. Pourtant, 2 ans plus tard, il devient Premier ministre et il le reste pendant 7 ans. Partisan de l'apaisement des relations avec l'Allemagne, pro-européen, favorable au traité de Lisbonne et pour l'entrée de la Pologne dans la zone euro, il est choisi pour succéder en décembre 2014 à Van Rompuy à la présidence du Conseil européen. S'il joue un rôle important dans la crise grecque, il intervient peu dans la crise migratoire et faiblement dans la crise du Brexit. À l'issue de son 2e mandat, il est considéré avant tout comme le normalisateur des rapports Union européenne-Europe de l'Est.
Le 3e président du Conseil, Charles Michel, a-t-il été plus actif ?
Alors Charles Michel est né en Flandre en 1975, en limite de la division linguistique de la Belgique. Licencié en droit, il marche très tôt dans les pas de son père, Louis Michel, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien commissaire européen. À 16 ans, il est membre puis président de la Fédération des jeunes réformateurs libéraux. Benjamin de la Chambre des représentants en 1999, il occupe un premier poste de ministre régional en 2000. Il intègre le gouvernement fédéral en 2007 à 32 ans. En 2014, grâce à ses talents de négociateur, il devient premier ministre belge et le reste jusqu'à sa désignation par ses pairs à la présidence du Conseil européen. À l'issue de ses 5 ans de présidence, le bilan de Charles Michel apparaît mitigé. S'il a orchestré de nombreux sommets européens au cours desquels des décisions fortes ont été prises à propos de la lutte contre la pandémie, du soutien à l'Ukraine agressée, son pilotage des discussions comme la multiplication de ses voyages coûteux et polluants, sans oublier les rapports exécrables avec la présidente de la Commission, ont suscité des critiques jusqu'au sein du Conseil européen. Et c'est un président quelque peu à la peine qui a cédé le poste en décembre 2024. Le successeur, Antonio Costa, en fonction depuis un an, n'a pas encore marqué la présidence du Conseil européen de son empreinte.